Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qu'êtes-vous donc allé voir au désert ? Un prophète, oui, je vous le dis, est plus qu'un prophète, car c'est de lui qu'il a été écrit « Voici que devant votre face j'envoie mon ange qui préparera la voie devant vous. » C'est par ces mots que Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, conclut l'éloge qu'il fait de saint Jean-Baptiste. Si l'Église a choisi ce texte, c'est pour nous donner en saint Jean-Baptiste un modèle des vertus que nous devons pratiquer durant cet avant, pour préparer nos âmes à la venue du Sauveur. Retenons-en trois. Son recueillement, sa constance dans le bien et sa mortification. Tout d'abord, son recueillement. Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Les grandes figures de l'Ancien Testament, Moïse, Élie, se sont toujours retirés dans des endroits inhabités, appelés déserts, pour se préparer une grande mission. Dans le Nouveau Testament, nous avons les exemples des pères du désert en Égypte et beaucoup de saints fondateurs, tels que saint Bruno, qui se retira avec quelques compagnons dans le désert de la Grande Chartreuse. Saint Jean-Baptiste continue la tradition des prophètes de l'Ancien Testament. Dès sa plus jeune adolescence, pendant 15 ou 20 ans, il s'est retiré près du Jourdain, afin de vivre seul avec Dieu. C'est en effet dans le silence et le recueillement que l'on trouve Dieu. Dans un désert comme celui de Saint Jean-Baptiste, aucun bruit dû à la vie des hommes ne vient perturber les sens. Seuls les bruits de la nature créés par le bon Dieu touchent les sens, le vent, les oiseaux, l'écoulement des eaux. Mais tous ces bruits naturels élèvent l'âme vers Dieu. Le silence extérieur aide à parvenir au silence intérieur. C'est lui le plus important. Ce silence intérieur, c'est le recueillement de toutes nos facultés sous la bonne garde de notre volonté. Sainte Élisabeth de la Trinité explique comment Dieu se communique à l'âme qui le cherche dans le silence. Elle commente ces paroles de la Sainte Écriture. « Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. » Pour entendre Dieu, dit-elle, il faut oublier la maison de son père, c'est-à-dire tout ce qui vient de la vie naturelle. Oublier son peuple est plus difficile. Ce peuple, c'est tout ce monde qui fait partie de nous-mêmes. Notre sensibilité, nos souvenirs, nos impressions, etc. Le moi en un mot. Alors il faut l'oublier, le quitter. Et quand l'âme a fait cette rupture, quand elle est libre de tout cela, le roi est épris de sa beauté. Cette beauté, c'est l'âme recueillie, entièrement concentrée en Dieu. Alors Dieu se complète en elle et souvent se communique à elle. Si la liturgie nous donne cet exemple de saint Jean-Baptiste, ce n'est pas pour l'imiter à la lettre, mais pour que, étant dans le monde, nous recherchions à nous recueillir en Dieu, malgré nos occupations. Comment faire? Puisque vous ne pouvez vous retirer dans un désert ou dans une cabane au fond de votre jardin, vous pouvez suivre le conseil que Dieu donnait à Sainte Catherine de Sienne, qui vivait dans sa famille. Tu construiras au-dedans de toi-même une cellule fermée de toutes parts, où tu habiteras toujours et n'en sortiras jamais où que tu ailles. Que ma volonté enveloppe tous les mouvements de ton corps et de ton âme. Que chaque parole, chaque pensée, chaque action soit pour me plaire. est conforme à ce que tu crois être ma volonté. Cette cellule intérieure n'est autre que notre corps, notre cœur, le sanctuaire de notre âme, où la Sainte Trinité habite comme dans son temple, si notre âme est en état de grâce. Nous devons être les gardes suisses de ce sanctuaire, c'est-à-dire veiller à la garde du cœur, empêcher l'entrée de toute pensée, imagination, sentiment, désir qui est contraire à la sainteté de ce lieu. Alors, dans le silence de ce sanctuaire, la volonté de Dieu nous apparaîtra clairement et nous pourrons lui demander la grâce de l'accomplir fidèlement. Concrètement, pendant cet avant, supprimons toute source de distraction, d'extériorisation, les écrans, la musique, les magazines, etc. Dans nos exercices de piété, mettons-nous en présence de Dieu. Puis, quand tout est calme, commençons notre prière. Dans nos devoirs d'État, collons à cette volonté de Dieu qui veut que nous l'accomplissions. Par amour pour lui, ainsi notre attention étant droite, nous resterons unis à Dieu dans notre activité même. Saint Jean-Baptiste a été constant dans le bien. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Le roseau agité par le vent signifie les âmes charnelles, faibles, inconstantes, qui inclinent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, au gré des passions, des tentations et des occasions. Le roseau, dit saint Hilaire, c'est l'homme qui a des apparences, mais est vide de la vérité, dont l'intérieur est nul, qui n'a aucune consistance parce qu'il est creux. C'est fort. Saint Jean-Baptiste est tout le contraire d'un roseau. Il a toujours été ferme dans le bien, fort comme un rocher pour annoncer la venue du Messie, pour reprendre les vices jusqu'à la prison et à la mort. Ne sommes-nous pas souvent des roseaux? Dès que la brise légère du succès ou des compliments souffle sur notre âme, eh bien nous sommes sensibles. Ne sommes-nous pas des roseaux dès qu'un reproche, une remontrance nous agite et nous abatte comme sous le souffle d'une tempête? Ne sommes-nous pas inconstants comme des roseaux? Nous sommes prêts à combattre pour le règne du Christ-Roi et plongés dans le monde de nos relations sociales, nous faisons souvent preuve de respect humain dès qu'il faut parler de Jésus-Christ, faire un signe de croix ou dire le bénédicité. Demandons à notre Sauveur la grâce de la fermeté, de la constance de saint Jean-Baptiste. En un mot, la grâce d'être fidèle à nos promesses du baptême dans le concret de notre vie quotidienne. Saint Jean-Baptiste a mené une vie mortifiée. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme vêtu mollement? Saint Jean-Baptiste est un modèle de mortification. L'Écriture sainte dit qu'il était vêtu d'un vêtement en poil de chameau, comme déjà l'était avant lui le prophète Élie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du poil de chameau, mais ce n'est pas très doux. Donc un tel vêtement ressemble plus à un cilice qu'à un vêtement. Saint Jean-Baptiste mangeait à la fortune du pot, du miel sauvage dans le creux des rochers, des sauterelles. Ça nous fait un petit peu horreur les sauterelles, mais les sauterelles sont une nourriture. Autrefois, c'était des nourritures permises par Moïse dans la loi. Et les peuples de ces régions-là les récoltes, elles les font sécher, donc c'est vraiment une nourriture. Son habitation, les grottes de la région. Pas de lit, pas de chauffage, il couchait à même le sol. Pourquoi Saint Jean-Baptiste menait-il une vie pénitente dans des rigueurs inouïes? Ce n'était pas pour expier ses péchés, puisqu'il avait été sanctifié dès le sein de sa mère. Il expiait les péchés de tout le genre humain et se préparait à sa mission d'apôtre de la pénitence. On ne peut pas prêcher la pénitence si soi-même on ne fait pas pénitence. C'est une nécessité pour nous ici-bas de faire pénitence, parce que nous sommes pécheurs. Donc il faut expier nos péchés passés, qui ont été pardonnés par le sacrement de pénitence. Il faut aussi nous mortifier dans nos passions, nos mauvaises tendances, mater notre chair, afin de ne pas périr lamentablement. Comme dit notre Seigneur, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Il sous-entend par là l'enfer. Ne pouvons-nous pas imiter Saint Jean-Baptiste selon notre état, en supprimant le luxe dans les vêtements, en donnant aux pauvres les vêtements superflus, de même dans la nourriture, dans la boisson? Ne réservons les bonnes bouteilles que pour les grandes occasions et ne créons pas des occasions trop souvent. Et l'amour du confort, le chauffage, les bains, la douche, il y a sûrement des efforts à faire à ce niveau-là. Cela rappelle autrefois un postulant américain qui était venu au couvent et donc il s'est renseigné un petit peu sur la sèche qu'on mène au couvent. Et lui, il était habitué à prendre une douche par jour. Il est reparti aux États-Unis pour prendre sa douche par jour. Donc, vous voyez, il y a sûrement des efforts à faire dans ce domaine. Acceptons comme venant de la main de Dieu, en esprit de pénitence, les peines et les épreuves de la vie, qu'on n'a pas prévues, qui nous arrivent. C'est la Providence qui permet tout cela. Pensons aux peines du purgatoire que nous devrons subir si nous n'avons pas fait assez pénitence ici-bas pour expier la dette de nos péchés. Pour mieux nous instruire, la Providence permet quelquefois des événements qui surpassent toutes les prédications. Au XIIe siècle, le dominicain Thomas de Quentin-Pré raconte l'histoire d'une de ses contemporaines qui vécut en Belgique, dans la ville de Saint-Tron, sur la Meuse, Sainte Christine l'Admirable. Tout s'est fait, était consigné dans les archives, dans le diocèse, tout était prouvé, etc. Cette servante de Dieu, après avoir passé les premières années de sa vie dans l'humilité et la patience, mourut à l'âge de 32 ans. Alors que son corps était déjà à l'église, dans un cercueil ouvert, prêt pour être enseveli, elle se leva, pleine de vie, jetant toute la ville dans la stupeur. Que s'était-il passé? Elle raconte alors qu'au moment de sa mort, son âme fut reçue par les anges qui lui firent visiter le purgatoire puis l'enfer, où elle fut profondément attristée de l'état de ses âmes. Enfin, elle fut conduite au ciel, où Dieu lui demanda de choisir entre la jouissance de la vision béatifique maintenant ou retourner sur terre pour accomplir une mission de miséricorde envers les pécheurs et les âmes du purgatoire. Mission qui consistera à souffrir sans mourir de très grands tourments pour soulager les âmes des défunts et amener les pécheurs à la conversion et à l'expiation de leurs péchés. Très généreuse, elle répondit aussitôt oui et ressuscita. Alors elle informe la foule qui était présente dans l'église que désormais, elle ne vivra plus comme elle a vécu jusqu'à maintenant. Elle va vivre différemment parce qu'elle a une mission à accomplir. Alors, pendant 42 ans, elle vivra dans un dénuement extrême, sans maison, pour se chauffer, s'abriter, cuire ses aliments, comme Saint Jean-Baptiste. De plus, elle faisait des pénitences extraordinaires, inspirée par Dieu, bien sûr. Par exemple, se jeter dans le feu, qui lui faisait pousser des cris effroyables dont la douleur était insupportable. Et quand elle sortait du feu, son corps était indemne de toute brûlure. Mais elle avait senti la douleur du feu. En hiver, nous sommes en Belgique, au bord de la Meuse, quand la Meuse était glacée, elle s'y plongeait et y demeurait parfois plusieurs semaines, sans manger ni dormir, priant Dieu de faire miséricorde. Ce sont deux petits exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. De telles pénitences, vous en doutez bien, attiraient du monde et opérèrent de nombreuses conversions. Après 42 ans de cette vie, elle mourut saintement et alla directement au ciel. Son corps est conservé dans l'église de Saint-Tron et elle fit de nombreux miracles après sa mort. Une telle vie nous fait toucher du doigt la nécessité de faire pénitence ici-bas. Les souffrances que les hommes peuvent subir sont sans proportion avec celles du purgatoire. C'est par une grâce spéciale que Sainte Christine ne mourait pas de ses pénitences. Mais la douleur, c'était vraiment la douleur qu'on éprouve dans le purgatoire. Ici-bas, les pénitences que nous faisons, même si elles sont petites, sont méritoires d'une plus grande gloire au ciel. Et elles nous protègent contre les chutes graves, en faisant mourir en nous les mauvaises tendances. Et ces pénitences, faites pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rendent plus semblables à lui et nous font entrer dans son intimité. Nous n'avons pas besoin de rechercher des choses extraordinaires comme Sainte Christine admirable, mais acceptons joyeusement ce que la Providence divine permet dans notre vie. Et que permet-elle? Les maux programmés par les mondialistes, par exemple. Il y a eu le Covid, et maintenant c'est le coût exorbitant de l'énergie qui va obliger beaucoup d'entre nous, de nos contemporains, à faire pénitence dans les mois et années à venir. Nous n'en sommes qu'au début. Plutôt que de nous révolter contre cette tyrannie, car c'en est une, offrons tout, réparons pour nos péchés, pour la conversion des pécheurs, de tous ceux justement qui prennent ces mesures pour nous opprimer. Et nous nous protégerons du péché. Nous éteindrons la dette de nos péchés et nous obtiendrons le triomphe du cœur immaculé de Marie. Alors prions bien le cœur immaculé de Marie. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, tout spécialement les Juifs, les francs-maçons et les musulmans, afin qu'ils se convertissent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.